Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Pas d'élection en RDC en 2028 sans les deux Kivu. Déclaration du chef de l'État hier au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Pour Félix Tshisekedi, les élections ne pourront se tenir que si la guerre cessait dans cette partie du pays. Lutte contre l'épidémie de choléra au Congo central avec ses assurances du médecin directeur de la zone de santé de Boko Kivu Lua Mbanzangungu. Bien que la maladie continue de s'étendre, aucun cas de décès n'a été enregistré ces derniers jours. Docteur Cosimus Lema nous expliquera ce progrès. Comme invité, Sylvain Chitoko, chef des travaux et responsable du département des langues et civilisations anglaises à l'Université pédagogique de Kananga, il juge prématuré l'introduction cette année d'une épreuve orale d'anglais à la partie hors session de l'examen d'État en cours dans le pays. Madame, Monsieur, bonjour. Si nous ne parvenons pas à mettre fin à cette guerre, malheureusement, il sera possible d'organiser les élections en 2028. Cette déclaration a été faite hier, mercredi, par le président Félix Tshisekedi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Le chef de l'État congolais a illustré son propos par l'exemple de l'Ukraine, où des élections auraient dû se tenir depuis 2 ans, mais n'ont pas pu être organisées en raison du conflit. Écoutez les explications de Félix Tshisekedi au micro d'Alain Irung.
Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans. Qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que le président Zelensky ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser des élections en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre ou ce que vous dites là, je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant.
Et nous restons sur cette conférence de presse. Les propos du président Félix Tshisekedi sur un éventuel 3e mandat continuent de faire réagir la classe politique. Lors de ce tête-à-tête avec la presse, le chef de l'État a affirmé qu'il accepterait un 3e mandat si le peuple le lui demandait. Une déclaration vivement critiquée par l'opposition qui y voit une remise en cause de la Constitution et une menace pour la stabilité démocratique du pays. Délice Sanga dénonce une volonté désormais affichée d'obtenir un 3e mandat, tandis que Claudel André Loubaya rappelle qu'aucune volonté populaire ne peut justifier une violation de la Constitution. Des détails avec Grâce Amzati.
Réagissant aux déclarations du président Félix Tshisekedi sur un éventuel 3e mandat, mais aussi sur la possibilité de ne pas organiser les élections de 2028 si la guerre persiste, plusieurs figures de l'opposition montent au créneau. Pour Délice Sanga, les masques sont tombés. L'opposant accuse le chef de l'État de vouloir désormais manœuvrer à découvert pour obtenir un 3e mandat par plébiscite. Selon lui, la RDC ne peut se permettre un nouveau cycle de tensions institutionnelles et de personnalisation du pouvoir. Il appelle les démocrates à faire obstacle à ce qu'il qualifie de dérive, estimant que le respect de la Constitution, des institutions et de la stabilité nationale doit primer sur toute tentative de prolongation du pouvoir. Même réaction du côté de Claudel André Loubaya. Dans une déclaration intitulée « Ni mission, ni troisième mandat », l'opposant affirme qu'aucune disposition de la Constitution ne permet de justifier une violation de la loi fondamentale au nom d'une supposée volonté populaire. Il rappelle que la Constitution encadre strictement ses modalités de révision à travers l'article 218 et consacre à l'article 64 le devoir pour chaque citoyen de défendre l'ordre constitutionnel. Claudel André Loubaya souligne également que certaines dispositions, notamment celles protégées par l'article 220, sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.
Cette sortie médiatique du président Félix Tshisekedi suscite également des réactions au sein de la société civile. Pour la nouvelle société civile congolaise, cette prise de parole est-il l'occasion pour le chef de l'État d'apporter des clarifications sur plusieurs questions liées à la vie nationale? Mais les déclarations du président sur un éventuel 3e mandat ou une possible révision de la Constitution préoccupent cette structure citoyenne. Son coordonnateur, Jonas Ochiombela, appelle à l'ouverture d'un débat démocratique et à un dialogue inclusif afin d'éviter une aggravation des tensions politiques et sociales dans le pays. On l'écoute au micro de Krasamtati.
Nous l'avons entendu sur les questions des sanctions contre M. Joseph Kabila et aussi sur les questions liées aux besoins de base, notamment la question liée à l'éclairage public, à l'électricité, à l'accès à l'eau potable. Mais au-delà de toutes ces questions qui ont été éclairées, il est revenu sur le problème de son troisième mandat ou le problème de la révision ou changement de la Constitution, mais aussi la question liée à la non-tenue des élections en 2028 à cause de la guerre, quand bien même les fonds sont là. Ces dernières préoccupations vont certainement alimenter les débats de tensions politiques, de stratégies politiques dans les états-majors des partis politiques et des mouvements de l'opposition comme de la majorité. Maintenant, le débat est ouvert. Tout ce que nous demandons, que ce débat qui va s'ouvrir, qu'il s'ouvre de façon démocratique pour ne pas amplifier les tensions et des crises sociales à travers le pays.
Entre-temps, sur terrain, dans le territoire de Béni, au Nord Kivu, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF la nuit de mardi à hier mercredi a fait au moins 26 morts, parmi lesquels de nombreux agriculteurs. Selon la société civile locale, l'attaque est survenue dans les zones agricoles de Babila Bakaiko, située à environ 40 km à l'ouest de la commune rurale d'Oïcha. Cette structure citoyenne précise que les civils ont été tués précisément dans les blocs agricoles de Katéré, Mundumbu, Moussangwa, Wasafi et Mangambo. Elle appelle les autorités à intensifier les opérations militaires pour traquer ces rebelles. Elle exhorte également la population à éviter de se rendre dans les champs situés dans ces zones désormais sous menace. Selon nos sources, les forces conjointes FRDC et UPDF sont actuellement déployées dans la zone et poursuivent les assaillants. Les nouvelles sont plutôt rassurantes du côté de Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central où l'épidémie de choléra continue toutefois de s'étendre. Selon le médecin directeur de la zone de santé de Boko Kivulu, de nouveaux cas continuent d'être enregistrés. Il précise néanmoins que la situation est désormais mieux maîtrisée avec un taux de mortalité sous contrôle. Le docteur Cosimus Lema s'exprime au téléphone d'Élise Kavira.
Au total, de façon cumulée, nous avons jusque-là 34 cas déclarés. 14 cas dont les tests étaient positifs et 20 cas les tests étaient négatifs, quoi qu'ils présentent les signes de l'épidémie. Sur les 34 cas retenus, il y a eu 27 guéris et il y a un cas actif en hospitalisation encore qui est sous traitement et il y a 6 décès. Mais là, ce qui est important ici à retenir, on a maîtrisé les nombre de décès. Bien que l'épidémie persiste encore, il y a des cas qui viennent de villages environnants. La zone de santé a mis des stratégies par rapport à la riposte. Nous avons équipé les centres de santé qui sont dans les secteurs de l'épidémie en intra. C'est ce qui retient quand même nos malades à une bonne évolution clinique.
Nos excuses pour la qualité de ce son. Pour la première fois, les finalistes du secondaire en République démocratique du Congo passent cette année une épreuve orale d'anglais lors de la dissertation. À Kananga, dans le Kasaï central, certains candidats se sont présentés à cet examen hier mercredi et indiquent avoir éprouvé des difficultés. Le point avec André Katendenga Lamouloumé.
Good morning.
Good morning.
How are you?
I am fine.
How was the exam today?
My exam,
Okay, merci.
Au centre du lycée Buenamuntu, nous rencontrons des élèves qui viennent de passer l'oral d'anglais. La majorité d'entre eux reconnaissent n'avoir pas répondu correctement aux questions des jurés. Seuls quelques candidats ayant suivi des formations préalables ont tenté de se défendre malgré des difficultés.
On m'avait demandé what is your name, j'avais répondu. On m'a encore posé d'autres questions, je lui ai répondu. J'ai pas d'idée.
J'ai lu avec des difficultés. Pour moi, c'était facile parce que moi, souvent, j'ai fait des formations de l'anglais.
Le chef du département des lettres et civilisations anglaises de l'Université pédagogique de Kananga estime que l'introduction de l'anglais à l'oral de la dissertation est prématurée. Sylvain Chitoko invite néanmoins les enseignants d'anglais à revoir leur méthode pédagogique afin de permettre aux élèves d'atteindre un niveau suffisant lors des prochaines éditions.
Pour le moment, ils n'ont pas les niveaux parce que il négligeait l'anglais. Mais ce qu'il faut faire, que les enseignants changent les méthodes d'apprentissage.
Signalons que c'est depuis novembre 2025 que le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé l'introduction de l'épreuve orale d'anglais de cette édition 2026 de l'examen d'État. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les habitants de l'avenue Lokolama dans la commune de Kassavubu vivent dans une obscurité quasi permanente malgré le paiement régulier de leurs factures auprès de la SNEL. Interrogés, les agents de la SNEL évoquent des cas de vol de câbles. Face à cette situation, la population lance un cri d'alarme à l'endroit de la Société nationale d'électricité afin de retrouver la lumière et réduire les risques d'insécurité. Le point avec Joyce Masanka.
Sur l'avenue Lokolama, le jour ressemble aux nuits. Les maisons restent sans lumière. La nuit, les rues ne sont pas éclairées. Les habitants s'organisent avec des lampes torches ou des groupes électrogènes pour faire face à l'obscurité. Pourtant ici, les factures sont payées chaque mois, mais l'électricité s'est fait entendre.
Ça fait plusieurs mois maintenant, parfois même toute l'année avec des coupures fréquentes. Payons chaque mois, sinon on nous coupe définitivement. Nos enfants étudient dans les noirs. Nos aliments se gâtent. Et nos petits commerces souffrent beaucoup.
À cela s'ajoutent des difficultés. Les enfants étudient dans de mauvaises conditions. Les aliments se détériorent rapidement et les activités économiques tournent au ralenti. L'absence d'éclairage public renforce également les sentiments d'insécurité dans les quartiers. Du côté de la SNEL, un agent évoque des cas fréquents de vol des câbles.
Il y a des problèmes techniques sur les réseaux dans cette zone. Vol des câbles est fréquent, ce qui perturbe la distribution. Nous essaierons de remplacer les câbles et de sécuriser les installations, mais cela prend du temps.
Entre factures payées et absence persistante de courant, l'avenue Lokolama reste prolongée dans le noir et attend une solution concrète pour enfin vivre dans la lumière.
Plus de 211 millions de dollars américains mobilisés pour le seul mois d'avril 2026. C'est le bilan des performances affichées par les trois grandes régies financières de la République démocratique du Congo, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD. Mais au-delà de ces chiffres records, comment fonctionne réellement notre système de collecte de recettes? Qui fait quoi entre les douanes, les impôts et les taxes administratives? Et quelle est la part qui revient aux provinces? Décryptage dans cette analyse pédagogique proposée par Michel.
Pour comprendre d'où vient l'argent de l'État, il faut regarder du côté du ministère des Finances. Trois piliers nationaux, appelés régies financières, assurent la mobilisation des ressources sur toute l'étendue du pays. D'abord, la Direction générale des douanes et accises, DGDA, a pour mission de percevoir les droits sur les marchandises qui entrent ou sortent du territoire, tout en luttant contre la fraude aux frontières. Ensuite, la Direction générale des impôts DGI, elle, est au cœur de la fiscalité intérieure. Elle gère les impôts directs et indirects, comme l'impôt sur les bénéfices des entreprises ou la TVA que nous payons tous. Enfin, il y a la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD. Contrairement aux deux autres, elle collecte les recettes non fiscales. Il s'agit des frais liés aux documents administratifs, comme les passeports, les permis de conduire ou les amendes judiciaires, les contraventions routières. Mais attention, ces trois géants s'occupent des secteurs à caractère national. Au niveau local, la décentralisation a donné naissance à des régies provinciales autonomes.
Actualité internationale.
Les dirigeants militaires du Burkina Faso ont ordonné mardi la dissolution d'environ 200 associations. Selon l'agence France-Presse, il s'agit d'associations actives dans les domaines de la santé, de l'éducation, des droits des femmes, de l'agriculture, de l'environnement, de la culture et du sport. Les ONG internationales et les organisations caritatives qui reçoivent des dons étrangers sont régulièrement accusées dans ce pays par la junte donc d'espionnage ou de collusion avec les djihadistes.
L'invité.
Il s'agit de Sylvain Chitoko, chef de travaux et responsable du département des langues et civilisations anglaises à l'université pédagogique de Kananga, UPCAN. Il s'entretient avec André Katendenga Lamulumbu au sujet de la décision du gouvernement congolais d'introduire dès cette année scolaire une épreuve orale d'anglais à l'examen d'État. Suivez leur entretien.
C'était Sylvain Chitoko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le gouvernement congolais a pris la décision pour qu'il y ait l'oral de l'anglais à l'examen d'État en commençant par cette année scolaire 2025-2026. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision du gouvernement congolais?
J'ai accueilli cette décision avec beaucoup de joie. L'anglais, depuis 2014, selon la loi cadre, va être étudié comme une deuxième langue officielle. Parce que nous vivons dans la période de mondialisation, le monde est devenu un village planétaire et beaucoup de gens cherchent à échanger des idées et à changer des expériences. Mais l'unique langue qui peut faciliter cette tâche, c'est l'anglais. C'est la raison pour laquelle J'étais très content parce que maintenant, nos élèves du secondaire seront motivés pour apprendre cette langue et la maîtriser comme il faut.
Quelle est l'importance de l'anglais pour le Congolais?
L'anglais est très important dans ce pays parce que, comme je l'ai dit, c'est une langue de communication. C'est la première chose, une langue de communication. Ceux qui ont l'habitude de voyager, dès qu'ils entrent à bord d'un avion, il n'y a que l'anglais qui prime ceux qui vont à l'étranger. Donc c'est une langue de communication, c'est une langue de commerce et c'est une langue de recherche. Tout chercheur, s'il veut être lu à travers le monde, il doit publier soit son livre, soit son article en anglais. Donc c'est une langue très importante que nous ne pouvons pas négliger. Et surtout que nous tendons vers les pays anglophones. Vous voyez qu'il y a des Américains qui viendront ici et ils pourront toujours avoir besoin des gens qui communiquent en anglais. Donc ce n'est pas une langue que nous devons négliger.
Qu'est-ce que cette décision doit apporter dans l'apprentissage de l'anglais ici en République démocratique du Congo?
Je pense que cette décision va stimuler nos élèves qui étaient négligents. Ils seront stimulés à apprendre la langue parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont arriver en sixième, ils doivent présenter l'examen oral d'anglais. Tout comme ils avaient l'habitude de présenter l'examen écrit. Maintenant, on va voir la capacité de chaque élève s'il est en mesure de se défendre oralement comme ils le font en français.
Pensez-vous que les élèves congolais, pour la majorité, seront capables de passer facilement cet examen oral d'anglais?
Dans un premier temps, ça sera difficile parce que c'est une nouvelle habitude. Mais je pense avec le temps, ils vont s'habituer. Ce que nous devons faire pour le moment, c'est faire des recyclages auprès des enseignants qui dispensent ces cours au secondaire, pour qu'ils adoptent de nouvelles méthodes, qu'ils adoptent de nouvelles stratégies pouvant permettre aux apprenants de bien maîtriser l'anglais oral et de bien maîtriser aussi l'anglais écrit. Parce qu'on ne va pas seulement s'imiter à l'anglais oral. Donc les enseignants nous demanderont aux inspecteurs de faire des recyclages, de faire beaucoup de réunions avec les enseignants d'anglais pour qu'ils puissent changer leur manière de dispenser les cours. Et nous allons aussi demander aux élèves qui étaient négligents de se donner à suivre correctement ces cours comme ils suivent aussi d'autres cours.
Parce que vous avez parlé de méthodes, quelles sont les méthodes qui sont appropriées pour permettre aux élèves d'atteindre un niveau de parler couramment l'anglais?
Pour le moment, il doit y avoir la méthode communicative. Donc les enseignants doivent apprendre aux étudiants comment ils doivent interagir, l'interaction. Ils doivent apprendre ce que nous disons en anglais, ce que nous avons toujours l'habitude d'utiliser ici, cooperative language learning. Donc, on doit former ces élèves-là, travailler en groupe, à échanger des idées en groupe, avec la méthode communicative. Et les cooperative language learning, je pense, je suis sûr que nos élèves pourront s'en sortir. Ils n'auront pas de difficultés.
Quel message vous lancez aux autorités nationales qui ont d'ailleurs pris cette décision?
Ce que je demande aux autorités nationales qui ont pris cette décision est d'équiper les écoles. Parce que dans beaucoup d'écoles, il n'y a même pas de manuels scolaires. Donc, équiper nos écoles, si possible, avoir des laboratoires dans nos différentes écoles pour que les élèves puissent apprendre et que les élèves puissent s'investir dans l'apprentissage de cette langue.
Monsieur Sylvain Chitoko, chef du département des lettres et civilisations anglaises à l'Université pédagogique de Kananga, nous vous disons merci.
Voilà qui met fin à ce journal coordonné par Élise Chikota Chivueta, Alain Irunga, la supervision. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté avec l'apport de Dieudonné Nyangasa, la technique. Merci de votre attention. Bon après-midi.